Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France Culture dans les mercredis du théâtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h et nous revenons aujourd'hui vers le berceau du théâtre, la tragédie. La meilleure chose, c'est de ne pas être né. Ensuite, c'est de mourir très jeune. Le pire, c'est de vivre longtemps. Ce dicton grec du 6e siècle avant Jésus-Christ, attribué au philosophe poète Théognis, définirait le plus exactement, selon George Steiner, ce que l'écrivain appelle la tragédie absolue. On compte au nombre de 3 les pères de la tragédie grecque, Eschyle, Sophocle, Euripide, dans les mercredis du théâtre. Nous nous attarderons principalement sur Eschyle, enjeu de 2 spectacles très différents l'un de l'autre. L'un est mis en scène par Olivier Py à l'Odéon. Il propose une trilogie composée des 7 contre Thèbes, des suppliantes et des Perses, avec seulement 3 acteurs en scène, parmi lesquels Philippe Girard, qui est avec nous aujourd'hui. L'autre représentation, Prometheus Landscape 2, est signée par un plasticien, performeur, chorégraphe et homme de théâtre, Yann Fabre, dont l'adaptation de Prométhée, vue au Théâtre de la Ville il y a quelques semaines, tourne actuellement un peu partout en Europe. Nous l'avons rencontré pour un entretien qui clôturera cette émission. Mais pendant toute la première partie des mercredis, nous allons parler de la tragédie au sens large avec Philippe Girard et avec Donatien Gros, normalien, agrégé de lettres, coordonnateur d'un livre passionnant sur ce thème, un livre intitulé « Tragédie » au pluriel, qui est publié par les éditions Rudulme. Tout ce que le genre tragique recèle de lois, de règles, de mystères et de résonances contemporaines est passé au crible de l'intelligence dans cet ouvrage très complet, au travers de nombreux textes signés par des personnalités aussi diverses que Renaud Donnedieu de Vabre, ex-ministre de la Culture, Jean Bollack, traducteur, Dominique Blanc, actrice, Georges Steiner, écrivain et beaucoup d'autres. Un recueil passionnant à partir duquel nous arpenterons nous aussi le territoire tragique, évoquant ainsi les dieux, les héros, la fatalité, le langage, la politique, le jeu. La tragédie ouvre littéralement, il faut le reconnaître, les portes de la réflexion sur le théâtre. Puis vous entendrez également la critique de l'un de nos jeunes chroniqueurs, en l'occurrence c'est Clément Mercier qui livrera aujourd'hui sa vision du spectacle d'Olivier Py, retour vers la tragédie avec Yann Fabre, Donatien Gros et Philippe Girard.
Zeus, roi, tu as anéanti l'armée des Perses, si nombreuse et trop fière. Suse et Batane s'enfoncent dans le deuil et les ténèbres. Les femmes, dans la douleur, ont déchiré leurs voiles et leurs seins sont baignés de leurs larmes amères. Dans les draps vides, les femmes pleurent le jeune époux perdu et les joies de l'amour. Et moi aussi, je pleure comme elles pleurent. Je porte tous les deuils, je pleure tous les morts. Un peuple entier est mort, et la Perse le pleure. Xerxès les a menés, Xerxès les a perdus. La mer, les vaisseaux, folie, folie de Xerxès. Le roi Darius a protégé son peuple. Les soldats, les marins disparus dans l'azur. La mer les a menés, la mer les a perdus, perdus par les naufrages et par la main des Grecs. Et le roi a dû fuir par les routes de Thrace.
La saison passée, Olivier Py avait créé sur le grand plateau de l'Odéon l'Orestie d'Eschyle, une fresque longue de plusieurs heures, une fresque passionnante. Cette conversation avec Eschyle s'est doublée depuis quelques années de la mise en scène d'une trilogie. Olivier Py a adapté et mis en scène à la suite les 7 contre Thèbes, les suppliantes et les Perses. 3 spectacles indépendants mais qui peuvent désormais se voir en intégrale. Les créations après s'être déroulées hors le théâtre, dans des lycées, des salles des fêtes ou des comités d'entreprise, ont aujourd'hui aussi lieu dans le salon Roger Blin du théâtre, ainsi pour les Perses dont vous avez entendu un extrait à l'instant. Le dispositif consiste en une très longue estrade. Des 2 côtés de l'estrade sont disposées des chaises où s'installe le public. 3 acteurs, Philippe Girard, Mireille Herbstmeyer et Frédéric Giroutru, se partagent la partition dans un espace brutalement intimiste qui ne laisse aucun échappatoire aux spectateurs. Philippe Girard, donc, j'ai vu dans les Perses, nous a rejoint autour des micros des mercredis du théâtre avec Donatien Gros, qui est coordonnateur, je le disais, de ce livre Tragédie. Et avec tous les deux, nous allons à notre tour pousser la porte de ces mystères et de ces fulgurances de ce qu'on appelle la tragédie qui n'est, on va commencer par là, Donatien Gros, qui n'est pas le tragique.
Oui, parce que le tragique est un concept qui est né, évidemment, de la tragédie, mais qui est un concept beaucoup plus récent que le genre tragique, le genre littéraire, si on veut tragique. Le tragique, en tant que concept, date essentiellement du 19e siècle romantique, ou du moins a été popularisé lors du 19e siècle romantique allemand, et ensuite repris de façon très, très, un peu passionnante et lancinante en même temps, par Nietzsche, évidemment. Ensuite aussi, il y a un très beau livre des années 20 de Miguel de Unamuno, Le sentiment tragique de la vie. Et il faut poser la différence entre les deux, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la distinction extrêmement simple, un peu banale et enfantine, que je propose dans l'introduction que j'ai fait à cet ouvrage, qui est qu'il faudrait distinguer, même si ça n'a pas vraiment grand sens, le tragique du tragique et le tragique de la tragédie, au moins pour des raisons de pédagogie. C'est-à-dire que le tragique du tragique serait, au fond, cet héritage du 19e siècle né de la source antique, évidemment, mais tandis que le tragique de la tragédie, lui, aurait à voir avec le genre littéraire qu'est la tragédie. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les propositions d'Olivier Py, puisqu'au fond, si Olivier Py a choisi l'Orestie, mais Philippe Girard me contredira peut-être, c'est parce que l'Orestie, d'abord évidemment, est la seule trilogie qui soit conservée, il manque des fragments, mais elle est conservée dans son ensemble, mais aussi parce que c'est une œuvre qu'il ne considère pas comme tragique. C'est-à-dire que c'est une œuvre dont la fin est, c'est pas un happy end, mais c'est heureux, tout de même.
C'est l'événement de la démocratie.
C'est ça, c'est ça. Mm. C'est l'événement de la démocratie dans laquelle vit Eschyle. Donc on peut supposer que, comme le théâtre, et la tragédie en particulier, est un spectacle politique, on peut supposer qu'il n'est pas en train d'insulter son propre régime politique, et donc que c'est un événement heureux. Ceci étant dit, à partir du moment où on pose cette distinction, il faut faire attention, d'une part, entre les liens entre les deux, parce que non plus Nietzsche n'a pas totalement fantasmé, les Schlegel et les grands romantiques allemands n'ont pas totalement fantasmé. Il y a bien quelque chose de l'ordre d'un héros affrontant son destin, qui est bien de l'individu affrontant son destin, affrontant une transcendance, ou du moins une fatalité transcendante qui le dépasse, qui est là dans la tragédie et se retrouve ensuite dans les extensions du tragique.
Alors ce statut du héros, ça fait partie d'une des définitions de la tragédie. Vous qui avez pratiqué et l'Orestie, Philippe Girard, et qui aujourd'hui affrontez donc les Perses notamment, mais vous avez aussi été distribué dans les deux autres spectacles de la trilogie. Le héros pour vous de la tragédie, c'est un héros qui est un héros soumis à une fatalité qu'il dépasse, ou au contraire, comme le dit Monique Cantos-Cerber dans un des textes qui compose ce recueil Tragédie, c'est un héros qui n'est pas écrasé par le destin, et finalement c'est un héros qui sait totalement ce qui va lui arriver et qui a une certaine forme de liberté qui lui appartient.
Il y a un peu des deux, oui, effectivement. Il y a les deux, on trouve les deux dimensions. Sait très bien qu'en réalisant la prophétie d'Apollon, il va déchaîner la fureur des Erinies. Donc au fond, il sait qu'il va venger Agamemnon, mais que ce faisant, il va lui arriver des choses effroyables. Bon. Xerxès, alors les Perses, c'est une pièce un peu particulière, parce que c'est sans doute, la seule tragédie antique qui se fonde non pas sur la mythologie, mais sur un fait d'actualité, c'est-à-dire la défaite de Salamine, des Perses, guerre à laquelle Eschyle lui-même a participé. Donc c'est une pièce sur l'actualité. Mmh. Alors là, il y a quand même une vision tragique, c'est-à-dire Xerxès, se lançant dans cette guerre pour venger les morts de Marathon, ne voit pas qu'il va dépasser la limite en faisant franchir l'Hellespont sur un pont flottant, en défiant Poséidon, en fin de compte. Donc, dans cet excès, il y perdra son armée. Voilà.
Tout
entière. Donc, il y a un aveuglement, là. Pour Xerxès, il y a un aveuglement. Et c'est le fantôme de Darius qui vient lever le voile sur cet aveuglement, en fin de compte. Mais effectivement, les héros tragiques sont soit aveuglés, soit conscients, mais doivent avancer.
Il a une incontestable lucidité, une rationalité certaine, et il maîtrise l'action, dit Monique Cantos-Perber. Donatien Gros.
Mm-hmm. Disons que c'est exactement l'ambiguïté que vient de pointer Philippe Girard. C'est qu'effectivement, disons qu'il a beaucoup de pièces du puzzle. Après, la question, c'est la question de la disposition des pièces du puzzle. Oui. Et on peut dire que d'une certaine manière, ayant toutes ces pièces du puzzle, il y a une ambivalence, si vous voulez, qui n'est pas loin d'être conscient. Il est pas loin d'être conscient et pas loin de pouvoir aussi, peut-être, ne pas s'inscrire dans la suite des événements. Mais en même temps, il le fait. Il le fait parce qu'il y a ce concept extrêmement important en grec, qui d'ailleurs est repris par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, c'est l'ananke, la contrainte. Ce qui veut dire vraiment le fait d'être poussé à avancer. Et l'ananke, dont la mythologie dit qu'elle est plus forte que les dieux eux-mêmes. Donc oui, d'une certaine manière, il a les pièces du puzzle. Édipe, pour reprendre l'archétype, a les pièces du puzzle. Même Ion, dans une pièce qui n'est pas une tragédie d'Euripide, qui n'est pas une tragédie, pas les tragédies les plus connues, mais a aussi, il y a une dimension d'enquête, d'enquête policière et politique dans Ion, puisque c'est un personnage qui découvre qui est son père, et ainsi de suite. Donc il a des clés, il a cette possibilité d'avoir un libre-arbitre, mais il ne l'exerce pas nécessairement.
Mais alors justement, puisque vous faites allusion à Euripide, quelle est la relation entre Euripide, Sophocle et Eschyle, Donatien Gros, qui alors, rend déjà ce point, parce que la tragédie grecque, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ, ça on l'a dit, mais ce sont les trois pères de la tragédie grecque.
Alors,
quel est le lien entre eux ?
Ce sont pour nous les trois pères parce que ce sont ceux dont on a conservé les pièces. Oui. Parce qu'elles ont été jugées comme étant les plus achevées, les plus belles. Il y a eu un classement qui a eu lieu dès l'Antiquité et on en a perdu 99,9999%. Bon. Donc, pour nous, déjà pour les anciens et pour nous, c'est l'essentiel, mais il nous manque justement pour le coup beaucoup de pièces du puzzle. Ça, le classement est d'abord chronologique. Évidemment, Eschyle est le premier, Sophocle et Euripide viennent ensuite. Il y a une période où Sophocle, autour des années 430, était à peu près contemporain d'Euripide. Nous, on est aujourd'hui les héritiers de Nietzsche, qui pose une classification entre les trois, Eschyle étant le plus proche de l'élan tragique, tandis que Euripide serait le plus bourgeois. Au fond, il y a une pièce comme Ion, justement, est considérée par Nietzsche comme quelque chose d'assez bourgeois, et évidemment, dans le contexte de l'Allemagne des années 1970, le contexte de ce qu'il a appelé le philistinisme. Il y a cet héritage de Nietzsche, il y a aussi la question de l'évolution interne à ce théâtre, puisqu'on passe d'une disposition à deux acteurs, puisque tous les personnages étaient joués par deux acteurs, Eschyle a une évolution vers trois acteurs. Et ça, c'est une évolution qui a lieu justement. Au début, on se prend, il y avait un acteur, puis deux et trois. Et on passe de ça, d'Eschyle à Euripide. Et cette évolution est pour finir, au fond, peut-être aussi une évolution thématique. Donc, évidemment, il y a cette dimension qui rejoint un peu ce que disait Nietzsche, de force mystique beaucoup plus grande, mystique je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas religieuse, beaucoup plus grande, sacrée serait peut-être le meilleur terme, beaucoup plus grande chez Eschyle que vous jouez, Philippe, plutôt que chez Euripide, où il y a une interaction des affaires humaines. Mmh. Même si, et là il y a un point très intéressant, c'est qu'au fond, et d'ailleurs George Steiner le dit, l'une des pièces, peut-être la pièce qui symbolise le mieux la tragédie, ou qui est considérée comme un des meilleurs symboles de la tragédie, c'est-à-dire les Bacchantes, pièce d'Euripide où on montre un fils déchiqueté littéralement par l'aveuglement de sa mère qui le dépèce, c'est Panthée, eh bien c'est une pièce d'Euripide qui est très tardive en fait, une pièce qui date de la fin du 5e, début du 4e siècle. Donc là, si vous voulez, ça permettrait peut-être de remettre en perspective cette généalogie.
Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose, Philippe Girard, d'écouter la chronique de Clément Mercier, qui est venu voir les Perses, hein, qui a dû faire comme moi, c'est-à-dire qu'il a dû aller au salon Roger Blanc de l'Odéon. Donc, il n'est pas allé, lui, non plus, dans les lycées et dans les comités d'entreprise, parce que c'est une pièce qui, comme les précédentes, se déplace, sort du théâtre et se joue hors l'enceinte du théâtre. Elle va vraiment, ce que Olivier Pie appelle le théâtre d'intervention, elle va vraiment au devant, enfin, cette trilogie est allée au devant de son public. Clément l'a vu au salon Roger Blin et on va écouter sa chronique.
Qu'il est dur de s'attaquer à l'origine du théâtre, à la naissance de la tragédie. Remarquons comme revers inouï sonne terriblement moins bien que l'onomatopée plaintive néa néa doua doua. L'effort d'adaptation du texte d'Eschyle, dans ce dépouillement prononcé, a pour premier effet de questionner le théâtre lui-même, d'abord comme un lieu de spectacle et de regard, puis comme un lieu de la langue. Ma dernière rencontre avec les Perses avant le salon Roger Blin du théâtre de l'Odéon était à Épidaure en Grèce, où j'y avais vu une représentation du texte en langue originale et dans une mise en scène fidèle au théâtre antique. Mais ici, les masques tombent, les chants meurent et le cœur s'enfuit. Si la poésie d'Eschyle passe pour obscure, le dispositif que propose ce théâtre d'intervention nous offre un éclaircissement bienvenu en mettant en lumière son aspect fondamental de lamentation et sa force lyrique. La tragédie, c'est avant tout la démesure de l'homme dans la juste mesure des vers. Saluons la prestation des acteurs qui nous emmènent corps et âme dans cette direction. Triple prestation pour Frédéric Giroutru qui mute du messager à Xerxès en passant par l'ombre de Darios en trois coups de pinceau et une chemise tombée. Le théâtre nous semble alors presque facile et l'intervention voulue n'en est que plus forte. Désacralisation de l'espace et de la mise en scène en vue d'une sacralisation du texte et de l'incarnation par son récitant. S'il est toujours question des Perses en surnombre éradiqués contre les valeureux Grecs qui s'opposent à l'invasion colonialiste, la traduction voudrait qu'il y ait 10 fois 30 vaisseaux pour les Grecs. Olivier Py préfère entendre 300 et libère nos imaginations thermopiles. Zack Snyder au cinéma nous rappelait que la fameuse bataille des 300 Spartes s'apparentait à une vraie lutte titanesque et mythologique. Le texte d'Eschyle place aussi la cité grecque sous protection divine et l'improbable victoire viendrait de l'intervention d'un daimon. Autour de 5 Samias formant la longue scène, 3 personnages, costumes noirs, une liste de héros perses, un fait historique et la mythologie qui reste omniprésente et fracassante, comme chez Snyder, comme chez Homer, comme chez Eschyle, tout simplement. Même sans le cœur et son fameux cri de désolation « Ototoi », l'humeur est véritable et poignante. C'est l'histoire d'un deuil enivrant. Le plateau est tellement proche des spectateurs que notre champ de vision devient une contre-plongée constante, édifiant les 3 personnages au rang de géants. C'est le deuil des géants. La question primordiale du destin, de ce qui a pesé contre la faveur des Perses, est parfaitement claire, malgré ou grâce à cette mise en scène. Si chez Homère on pèse Kérès, les déesses de la mort, chez Eschyle, on pèse le Tyché, le sort, c'est le sort des géants. Eschyle avait composé pas moins de 90 tragédies, et il ne nous en reste que 7, dont le choix remonte à un paisible grammairien du 2e siècle de notre ère, qui préparait un ouvrage scolaire. Et voilà que le plus ancien texte de théâtre qui est parvenu jusqu'à nous vit ensuite cette entreprise minimale et ambulante. Que de destins radicaux pour la poésie, c'est le destin des géants.
Merci Clément Mercier. Vous avez une réaction, Philippe Girard, à l'écoute de cette chronique de Clément ?
C'est une très jolie chronique. Mais alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous quant à votre lecture de l'absence du cœur, puisque dans ce dispositif du théâtre entre nous, puisqu'on joue dans une allée centrale en bifrontalité, ce que j'appelle le théâtre entre nous, c'est que l'auditoire est le cœur. Et il ne reste que les 3 acteurs. Alors forcément, il y en a un qui se fait le porte-parole de cette foule. Mais c'est l'originalité même de ce dispositif, c'est que l'audience, l'assistance devient le cœur. Donc participe à la tragédie. Alors évidemment, dans le salon Roger Blin, on a dû disposer ces petites estrades qui nous mettent en hauteur et nous donnent des allures de géants, ce qui n'est pas le cas dans les autres lieux. On joue n'importe où, dans une salle de classe, un réfectoire d'école, un lieu associatif, sous un escalier, enfin ça nous est arrivé, dans une prison, enfin bon. Mais c'est toujours cette idée du chemin et de l'auditoire qui est assemblé autour et au nombre de places limitées, volontairement limitées. Parce que sinon, on pourrait faire des représentations en frontal dans un théâtre, on remplirait la salle et voilà, ce serait fait. Là, c'est aller au-devant des gens et les mettre au cœur du propos, en quelque sorte. Ce qui modifie sensiblement l'écoute.
Et d'ailleurs, Philippe Girard, ça rejoint quelque chose que dit Dominique Blanc dans un autre des papiers qui font partie de ce livre Tragédie. Elle a joué Fête sous la direction de Chéreau, donc autre tragédie française pour le coup. Et elle dit qu'elle a le sentiment de jouer un spectacle extrêmement populaire.
Oui,
est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que la tragédie est un genre populaire, Philippe Girard? Vous sentez ça?
Moi,
une adhésion,
je le crois,
une familiarisation
je le crois très
du
profondément.
Public.
Je le crois au travers de l'expérience qu'on a faite ces dernières années avec ce théâtre en gaz rare itinérant, en quelque sorte, comme disait Antoine Vitesse. Ce que je trouve formidable chez Eschyle, c'est dans des pièces courtes, puisqu'elles font entre 50 et 55 minutes. Je crois que c'est Agamemnon la plus longue, qui doit faire 1h20. Il arrive, dans un temps extrêmement bref, à développer une dramaturgie extrêmement complexe, et avec une notion du suspens absolument incroyable. Sinon, les Perses, on sait dès le départ, c'est le principe même, qu'ils ont perdu. Donc qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On va se lamenter pendant 1 heure, faire ouin, 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 les Perses, pauvres Perses. Non, c'est ça, c'est là où Eschyle est incroyable, parce qu'il arrive à ménager un suspens incroyable, dans un temps extrêmement bref. Les suppliantes qui viennent demander l'asile au roi d'Argos... on ne sait, alors c'est toujours le problème, c'est comme ce sont des fragments. Les Perses, c'est la dernière pièce. Les suppliantes, c'est la première. Donc on sait à la fin des suppliantes que la guerre va avoir lieu. Mais on ne sait pas comment ça va se résoudre, puisqu'on a perdu les morceaux. Les sept contre Thèbes, c'est la pièce du centre. C'est la guerre entre Étéocle et Polynice, donc les fils d'Oedipe. Là encore, le héros sait très bien... en allant combattre son frère, il n'a pas le choix. Il doit combattre son frère. C'est le principe même de la chose. Mais à chaque fois, Eschyle nous fait un court-métrage presque incroyable, avec des développements inattendus. Il a un sens du coup de théâtre absolument incroyable. Oui.
Alors, il y a dans le...
Ça, c'est le théâtre populaire.
Il y a dans cet ouvrage un papier formidable signé Georges Steiner qui clôt le recueil Tragédie, dont j'aimerais bien que vous nous parliez, Donatien Gros, parce qu'il dit peut-être que la tragédie, avec l'arrivée de la langue, l'arrivée du langage, a finalement signé la chute de la tragédie ou d'une certaine manière l'altération de la tragédie. Je faisais allusion en ouverture de cette émission à la phrase du poète Théognis sur la tragédie, ce que serait la tragédie absolue. Quelle est cette variation qu'introduit le langage, et Dieu sait si la langue, Clément l'a souligné, est fondamentale, enivrante et d'une puissance folle dans les tragédies, mais quelle est cette légère altération qu'introduit le langage pour Georges Steiner dans la tragédie, Donatien Gros ?
Il y a quelque chose, juste avant de vous répondre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'étais avec Georges Steiner, quand il a assisté, je vais livrer un secret, quand il a assisté à la présentation des Sept contre Thèbes, qui était mise en scène par Olivier Pie. Et pour compléter ce que disait Philippe Girard, sur à la fois ce caractère extrêmement élaboré et en même temps cette extrême simplicité, cette ligne, Georges Steiner a dit mais c'est le mur entre Israël et la Palestine. C'est ce combat, ces personnages qui se regardent du côté d'un l'autre, pour dire à quel point il y a, pour vous parler de Georges Steiner, pour dire à quel point il y a à la fois cette extraordinaire élaboration et cette capacité d'aller tout de suite au cœur du sujet. Pour répondre plus directement à votre question, effectivement, ça a été un moment que j'avais trouvé particulièrement étonnant, qui est cette capacité qu'a Georges Steiner à tout renverser.
Mais son hypothèse, donc.
Son hypothèse consiste à dire, on considère, si vous voulez, c'est renverser ce que disait Nietzsche, dont je parlais au début. Nietzsche considère qu'au fond, Eschyle, c'est le point suprême, c'est l'acmé, c'est le moment où on est le plus proche de cet élan originel, d'une pulsion qui s'exprime, mais qui est très proche de la pulsion. Tandis qu'au fur et à mesure, ça devient de plus en plus bourgeois, de plus en plus rhétorique et de plus en plus influencé par les professeurs de rhétorique de l'époque qui s'appelaient les sophistes. Donc au fond, il y aurait une déchéance progressive, on pourrait dire aussi une mort de la tragédie, si on veut, une naissance après une mort de la tragédie, pour reprendre le titre d'un autre livre de Georges Steiner. Georges Steiner renverse ça. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « Eschyle, en gros, c'est le début, donc c'est très bien », il dit « Non, mais ici, au fond, le corps... » était l'origine
et
le langage venait après, et le langage était, il y avait une chute dans le langage au fond, et donc il renverse complètement la logique en disant peut-être que Eschyle n'est pas un début mais plutôt une fin, ou un début qui est une fin.
Et pourquoi?
Pour une raison simple, c'est qu'il y a cette parole articulée, ce personnage qui incarne une parole sur scène. Si vous voulez, quand on prend l'exemple, parce qu'on pourrait lui répondre, vous êtes bien gentil, Georges Steiner, mais avant, il y avait Homère. C'est pas le premier, il y a eu Hésiode. Eschyle n'a pas inventé la parole poétique. C'est vrai. Mais Laède n'est jamais Achille ou qui on veut, ou Agamemnon, qui on veut. Là, le personnage incarne le caractère que l'acteur incarne, le personnage qu'il joue. Donc là, il y a une ambivalence et un passage d'une illusion d'incarnation où quelqu'un peut devenir, ne serait-ce que le temps d'une représentation, quelqu'un d'autre. Il y a la naissance, où, il y a la naissance d'une logique de théâtralité qui est une logique d'illusion.
Il dit cette chose frappante, Georges Steiner, il dit « rien dans le langage ne nous dit halte ». Et cette ouverture que crée le langage, au fond, met un terme à ce que lui appelle la tragédie absolue, c'est-à-dire que tout à coup, il y a le conditionnel de la langue, il y a l'hypothèse, il y a le possible, il y a les possibilités que réserve effectivement le langage, Philippe Girard. Est-ce que, quand par exemple dans les Perses, ce messager arrive et dit cette phrase fondamentale « malheur à celui qui vient annoncer le malheur », au fond, il arrête la chose ou il la démarre ?
C'est amusant parce que je crois même qu'il démarre un morceau d'histoire du théâtre, parce que dans le récit que fait le messager dans les Perses, c'est la naissance du récit de la bataille du Cid, enfin, c'est la naissance de tous les récits.
Le récit Théramène.
Voilà, c'est tous les grands récits de la tragédie qui sont inaugurés là.
Le destin a détruit la grande armée des Perses. La terre pleure ses enfants que Xerxès a tués. Les soldats, les marins par milliers aux enfers, jeunesse disparue, foule épaisse des morts, l'Asie est à genoux, détruite, humiliée.
Malheur à moi, j'ai anéanti mon propre peuple.
Pour ton retour, voilà mes cris, voilà mes larmes.
Crier, le destin m'a trahi.
Puis, je trouve qu'Eschyle inaugure aussi une chose tout à fait étonnante, dans lequel le langage, justement, trouve presque sa limite. À la fin de cette tragédie, il n'y a plus qu'une énumération de noms. Et puis ensuite, en guise de déploration, simplement des monosyllabes, ou quasiment des monosyllabes. C'est comme si le choc était tel, la déchirure était telle, qu'on n'avait plus accès à la phrase. Il n'y a plus que quelques mots. « Pleure avec moi, oui ». Je pleure avec toi. Enfin, c'est un échange de lamentation, mais extrêmement tendu, quoi, dans ce précipice. Et c'est surtout cette liste des noms des morts, c'est-à-dire l'idée de faire du théâtre avec ce qu'est toujours une guerre, même pour nous aujourd'hui. Une guerre, c'est une liste de noms, c'est un monument aux morts. Et Eschyle en fait du théâtre.
Et en même temps, ça ramène, pardon Donatien Gros, je vais vous donner la parole tout de suite, ça ramène à ce que Florence Dupont relate, au fond, le réel de la tragédie. Comment se jouaient les tragédies? Comment elles se déroulaient? Dans quelles circonstances? Dans quels lieux? À quelles occasions? Donc elle parle des Grandes Dionysies et elle dit, les Grandes Dionysies, c'était des fêtes durant lesquelles donc, se déroulaient les tragédies. Et là, il y avait des exceptions qui faisaient que pouvaient advenir certains types de jeux, le cœur pouvait intervenir. Enfin, vous seriez plus précis que moi sur le sujet, Donatien Gros, mais elle dit une phrase très intéressante qui dit la tragédie antique est une performance. Et cette notion de performance, il me semble que dans la radicalité qu'a adopté Olivier Py, ce dispositif recentré, réduit, bifrontal, elle est inclue à l'intérieur de ce travail d'Olivier Py. Qu'est-ce que vous en pensez, Donatien Gros?
Ça me rappelait, quand Philippe Girard en parlait tout à l'heure, ça me rappelait une conversation qu'Olivier Py et moi-même avions eue juste au moment où il préparait la traduction de l'Orestie. L'un des premiers vers de l'Agamemnon, la première pièce de l'Orestie, dit, en grec, c'est ton proémion chorosomai, c'est-à-dire c'est ambigu. Ça veut dire je vais danser le premier, je vais être le premier à danser, et ça veut dire je vais danser le prologue. C'est le proémion en grec, c'est le prologue. C'est un terme de rhétorique. Et donc, il y a une ambiguïté parce que le personnage dit en même temps, et Claudel s'en était rendu compte, et ensuite Olivier Py n'était pas dans la traduction publiée, mais c'était dans la traduction jouée, que c'est en même temps une réflexion, c'est en même temps l'action et une réflexion sur le théâtre. C'est-à-dire qu'en même temps que la chose se joue, elle est pensée et elle est pensée dans son rapport au spectateur. Et ça, c'est un des points très importants de la recherche de Florence Dupont, qui est beaucoup, beaucoup réfléchie autour de cette idée de métathéâtralité, en particulier dans la comédie romaine, mais pas seulement, c'est la tragédie grecque, que cette idée que tout théâtre est en même temps adressé au public, et adressé par des termes qui, en grec ou en latin, ont à la fois un sens d'action, et s'intègrent à l'histoire, et en même temps un sens théâtral, et disent on est en train de faire ça, et on est conscient du code. Et d'ailleurs, c'est aussi ça, cette mise en jeu, cette mise en danger, c'est aussi, je pense, quelque chose qui doit être particulièrement visible dans ce processus bifrontal.
Philippe Girard ?
Oui, mais c'est même tout à fait étrange, parce que ça crée des rencontres et des réactions très surprenantes. C'est-à-dire, je me souviens d'une représentation qu'on a donnée dans une salle des fêtes très laide, à Merindol.
Comme souvent les salles des fêtes, hein, vous savez.
Mais très très laide. Et la réaction des gens ce soir-là était étonnante, parce que bon, alors, on joue avec ce qui est. Donc il n'y a rien, on met des chaises, on tire un trait de scotch sur le sol pour faire ce chemin dans lequel les acteurs vont jouer. Et les gens, à l'issue de la représentation, certains m'ont dit, mais quand on a vu ce lieu, mais qu'est-ce qu'on peut jouer dans un lieu aussi laid? Et quand les acteurs rentrent en scène, ils nous ont dit, instantanément, on a oublié le lieu. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est étonnant dans cette formule, c'est que, au fond, presque à l'Odéon, le lieu est trop noble. Ce théâtre-là, dans sa pauvreté, enfin dans ce gaz rare, nécessite presque le lieu le plus neutre, le plus moche, pour faire surgir le théâtre, au travers d'une parole. Il n'y a rien que des acteurs qui parlent, c'est tout, il n'y a rien. Il y a le poème dramatique.
Mais là, vous me ramenez vers alors un autre des textes, parce qu'ils sont fort nombreux et tous très intéressants. Je crois que c'est Mendelssohn,
Daniel, oui. Hein,
qui parle de la beauté, qui dit que la tragédie, c'est aussi l'expérience de la beauté. Et la beauté, c'est l'expérience des extrêmes. Et c'est vrai que finalement, on peut jouer ça sur un trottoir ou sur une place publique ou dans n'importe quel endroit désinvesti par le théâtre. Mais le théâtre s'impose parce que il est la tragédie est marquée au sceau de ça.
À partir du moment où on pense
Girard.
Que le théâtre, c'est un homme debout dans la lumière qui parle.
Voilà.
C'est ça le théâtre,
sans doute
rien
ça,
d'autre.
Le béaba, oui.
C'est pas, on a toujours tendance à confondre le théâtre avec la maison théâtre. L'art du théâtre et la maison théâtre. L'art du théâtre, c'est cet art de la parole. La maison théâtre, c'est une maison dans laquelle on peut faire beaucoup de choses.
Mais je voudrais écouter. Enfin, je voudrais
autre chose que du théâtre.
Je voudrais me retourner, puisqu'il a dit tout à l'heure dans sa chronique, Clément Mercier, qu'il était allé à Épidaure, si j'ai bien suivi, et que vous aviez vu, Clément, une représentation là-bas.
Oui, des Perses.
Donc, visiblement, monter comme doit être montée une tragédie.
Oui,
racontez-nous à quoi ça ressemblait à Épidaure, en plus, donc vraiment le centre nerveux de la tragédie. Ça ressemblait à quoi ce que vous avez vu?
C'était mis en scène comme chez Sophocle, parce qu'on ne sait pas trop comment c'était mis en scène à l'époque d'Eschyle. Ils ont tous des masques. Le cœur a sa place même sur scène, qui est différent du sable sur lequel les acteurs jouent avec des masques. Et j'avais été frappé, une chose, c'est l'acoustique. On entend vraiment les bruits de pas sur le sable, même si on est très haut dans le grand théâtre. C'est vrai que j'avais pas vu cette possibilité des spectateurs comme cœur. Et justement, c'est pour ça que j'avais fait un parallèle avec cette scène à Épidaure. C'est-à-dire que le cœur chante vraiment. Mais c'est-à-dire que c'était grand moment chanté. Et d'ailleurs, Eschyle, mais même des directions de chant. C'est une grande masse qui bouge sur la place réservée sur scène, et les acteurs plutôt proférateurs, assez rigides.
Donc ils ne jouent pas trop avec le corps, pour le coup.
Si, il y a une relation entre le corps du cœur,
oui,
qui ne forme qu'un corps. C'est ça qui était beau, voilà, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que les acteurs ont un corps à eux, donc ils l'utilisent un petit peu quand même sur des déplacements, mais jamais dans un grand, grand geste théâtral comme on peut en voir aujourd'hui. Mais c'est le cœur surtout qui bouge d'une manière très, très synchronisée, très, très belle, qui forme presque des vagues.
Non, mais c'est Steiner qui rappelle que la tragédie, c'était le mime, le masque, la musique, la danse. Donatien Gros.
Oui, et Florence Dupont est quelqu'un qui a beaucoup travaillé parce qu'on a, sur justement cet espace et ce corps de l'acteur. Parce qu'au fond, sur une scène antique, la scène est une sorte de gigantesque échiquier. C'est-à-dire que il y a des ordres de mouvement qui sont prédestinés, enfin préconfigurés plutôt. Préconfigurés. Quand un acteur va dans telle direction ou dans tel espace en dehors duquel en dehors de celui dans lequel il se trouve, bien ça a un sens. C'est-à-dire qu'on passe à un autre type de scène, ça veut dire qu'on passe à un autre ordre de représentation. Donc la chose est vraiment extrêmement, il faut pas oublier que la tragédie est aussi, vous parliez des grandes donnités tout à l'heure, est aussi une cérémonie religieuse.
Il y a un chapitre que je voulais aborder avec vous avant qu'on arrive dans le deuxième temps de cette émission qui sera consacrée à Yann Fabre, parce que ça le touche de près, je pense. Ces deux papiers qui sont aussi dans ce volume Tragédie, Donatien Gros, c'est celui de Robert Abirachet, qui est un ancien directeur du théâtre et des spectacles, qui aujourd'hui est professeur à la fac, professeur émérite à la, je sais plus quelle faculté,
Paris 10.
Et un autre de Catherine Grenier, qui est directrice adjointe du Centre Pompidou, qui est critique d'art, qui elle est plutôt du côté des artistes contemporains, des plasticiens, et donc qui rend desquels elle aurait pu s'intéresser à Yann Fabre. Elle ne le cite pas dans le papier, mais il aurait pu être cité dans son papier. Et alors, Robert Abirachet dit d'un côté que dans les années 40-60 à peu près, on n'a pas vu de tragédie. Hormis Samuel Beckett, personne n'écrivait de tragédie. Donc il y a eu, à un moment donné, une cessation de tragédie. Des auteurs n'ont plus écrit de tragédie. Et elle, à l'inverse, elle raconte, Catherine Grenier, que dans le domaine des arts plastiques, on voit réapparaître depuis quelque temps des plasticiens qui se remettent directement en connexion avec la tragédie, c'est-à-dire avec le pathos, avec l'émotion, et qui essayent de cultiver chez le spectateur et d'attiser chez le spectateur ce qui est du registre de l'affect et de l'émotionnel. C'est quoi ces deux mouvements? Alors, un mouvement côté théâtre qui est disparition de la tragédie dans l'écriture, et un mouvement côté plasticien qui est réémergence, d'un certain sens, du tragique, Donatien Gros.
Alors, je pense qu'il y a une chose que vous venez de dire, c'est la question dont on parlait au début, de la distinction entre tragique et tragédie. C'est-à-dire que quand on regarde, d'abord sur effectivement le théâtre, oui, il y a, et d'ailleurs le livre de George Steiner date de 1961, La mort de la tragédie le manifeste très clairement. Et il y a tout de même un auteur tragique qui a participé à ce numéro, à ce livre. Il était auteur associé de l'Odéon, c'était Howard Barker. Mais c'est vrai que la tragédie n'est pas partout, ça c'est moins qu'on puisse dire. Et même George Steiner avait eu du mal à reconnaître Beckett. Si on lit la première version de La mort de la tragédie, on considère que Beckett, c'est un pitre. Mais après, il est revenu, évidemment, sur ce propos.
Et qu'est-ce qui fait de Beckett un auteur tragique? Contrairement, alors, sans doute, à Ionesco,
Justement, c'est ce côté quintessentiel, si vous voulez, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire ce côté, cette manière d'aller à la scène essentielle. L'un des exemples, une des grandes expériences théâtrales de George Steiner, c'est d'avoir vu Mutter Courage, la mère Courage, et Helen Weigel qui joue le personnage de Brecht. Bon, il y a cette extraordinaire capacité à styliser qu'a Beckett. Bon, ça c'est une première chose. Pour répondre sur les artistes plasticiens, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du tragique chez les artistes plasticiens. Et Daniel Birnbaum, elle le cite dans la biennale qu'il avait faite en 2009, donc la dernière biennale de Venise, avait vraiment joué autour de ça. Avec quelqu'un comme Maurizio Cattelan, qui joue sur l'image, qui joue sur les chocs de l'image et sur la réaction du spectateur, joue sur les mécanismes qui sont en jeu dans la théâtralité. Après, il y a une double question qui est: est-ce que ce retour de la tragédie, du tragique, si je puis m'exprimer ainsi, de façon un peu redondante, correspond à un retour du tragique de la tragédie? Et là, il y a un autre schéma dont elle ne parle pas, mais qui est extrêmement intéressant, c'est que certains jeunes artistes d'aujourd'hui, dont Alexandre Singh, qui a une exposition maintenant au Palais de Tokyo, qui a ouvert il y a une semaine ou 10 jours, jouent sur ces schémas du théâtre antique. Et il joue plus sur Aristophane, il y en a un autre, s'appelle Nathaniel Mellors, qui joue plus sur Aristophane que sur les schémas de la tragédie. Donc il y a quelque chose, une sorte de disjonction entre le théâtre, la théâtralité, et l'essence, si on veut, tragique, conceptuelle, qui est extrait de la tragédie.
Mais qu'est-ce que c'est que jouer la tragédie, Philippe Girard? Vaste question. Dominique Blanc, elle dit que jouer la tragédie, c'est le silence, l'écoute des autres, de l'autre, c'est accepter d'aller au bout de soi, accepter de ne pas avoir de limites. Et elle ajoute, il y a une proximité avec la mort, le désir, une implication totale de tout le corps.
Pour moi, c'est toujours jouer, c'est toujours une question de style. Pour moi, le style de jeu est impliqué par le style d'écriture. Et donc, si on se réfère aux tragédies d'Eschyle que j'ai pu jouer, je trouve qu'effectivement, ce style d'écriture impose ou implique un style de jeu particulier. Ce que je trouve étonnant avec ces objets-là, alors si on se réfère à la mise en scène d'Olivier Py, là, de ces trois pièces, très différentes du reste de la mise en scène de l'Orestie, forcément, c'est que comme nous jouons sur une passerelle, un chemin d'1,20 m de large sur 4 m ou 5 m de long, l'espace, la grammaire spatiale est extrêmement limitée. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'investissement physique, c'est-à-dire que je pense toujours que ce sont les mots à l'intérieur d'un corps d'acteur qui tordent le corps. Ce n'est pas le corps qui tord les mots, c'est les mots qui tordent le corps. Donc la passion ou l'émotion des protagonistes tord les corps, mais dans un espace, dans une surface limitée. C'est-à-dire le côté physique des choses m'a toujours un peu étonné. Je trouve que c'est une réflexion qui n'a pas de sens. À partir du moment où je parle, j'ai un corps. Je ne me pose pas la question du corps. Un acteur n'a pas à se poser cette question. S'il peut parler, c'est qu'il a un corps. C'est ça l'incarnation. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas parce qu'on aura fait de la gymnastique qu'on aura plus de corps. C'est parce que les mots sont dans mon corps que mon corps est tordu.
C'est une question dont on a parlé il y a quelques semaines dans l'émission en parlant de la présence justement de l'acteur. Merci à tous les trois, Donatien Gros, Philippe Girard et Clément Mercier, parce que de ces paroles autour de la tragédie. On va passer maintenant au second temps des Mercredis du théâtre avec Yann Fabre, qui a mis en scène il y a quelques semaines au Théâtre de la Ville à Paris sa vision de Prométhée. Qui tourne partout en Europe s'appelle Prometheus Landscape 2. Yann Fabre est chorégraphe, plasticien, homme de théâtre. Lorsqu'il s'empare du mythe de Prométhée, ce n'est pas pour le reproduire littéralement, mais plutôt avec le désir d'en extraire les sens profonds, d'en dégager des résonances contemporaines sur le plateau. Prométhée est un éphèbe cloué sur une croix dressée sur plusieurs mètres de haut. Il surplombe une scène où la débauche et la furie se déchaînent. Ce feu que Prométhée a dérobé aux dieux pour le donner aux hommes est une quête impossible, une utopie. Les hommes à terre justement tentent par tous les moyens de l'animer, de l'activer et de le maintenir. Ce feu, ce sont eux, les héros d'aujourd'hui. Et Yann Fabre est intéressant car il s'inscrit, je le disais, dans la mouvance qu'évoque Catherine Grenier dans un des articles de ce recueil Tragédie. Il fait partie de ces artistes contemporains qui renouent avec le pathos et l'émotion en tournant sans doute le dos à une danse conceptuelle où la raison et l'abstraction jusque-là avait largement prédominé. Son rapport à la tragédie est patent et sans doute même est-il un metteur en scène tragique par excellence. Nous l'avons rencontré à la galerie Daniel Templon, une exposition de lui est en cours actuellement et nous lui avons demandé, première de nos questions, quelle était justement sa vision de Prométhée. La traduction de cet entretien est assurée par Aurélie Charron.
First, it's mythology.
D'abord, c'est mythologie et on a besoin des mythes. Je pense que ce que j'essaie de faire, c'est les réhabiliter. Et je pose la question, est-ce qu'on a besoin des mythes aujourd'hui ? Et je pense que oui. Parce que ça dit quelque chose de la façon dont on use du feu dans ce monde. Par exemple, avec la façon dont les Français et les Belges bombardent la Libye, on tue le feu de leur révolution là-bas.
Au début du spectacle, il y a une double image. Il y a à la fois un homme, un obèse, qui est assis sur une chaise, enchaîné par des cordes. Et puis après, le rideau se lève, et là, il y a un superbe athlète qui est crucifié sur une croix. Qui est le Prométhée pour vous ? Est-ce que c'est l'athlète ou est-ce que c'est l'obèse ? Est-ce que c'est l'homme qui est élevé dans le ciel ou est-ce que c'est l'homme qui est assis à terre ? Yann Fabre.
Non, c'est l'homme qui est sur la croix. Parce que l'homme au premier plan... C'est ce que j'appelle un faux héros. On l'a souvent observé dans la société, par exemple en Belgique, on a dépassé les 300 jours sans gouvernement. Et ça a donné naissance à beaucoup de faux héros avec l'extrême droite. Des faux héros qui deviennent nationalistes et populistes. Et le faux héros en ce moment en Belgique est aussi presque obèse.
Le fait de clouer Prométhée sur une croix, Yann Fabre, c'est très intéressant parce que ça voudrait dire que le rocher, aujourd'hui, c'est la religion, c'est-à-dire la punition, c'est la religion, au fond.
Bien sûr, c'est la croix originelle, la croix du Christ. Pour moi, Prométhée est aussi un modèle du Christ. Et je crois, moi, à ce modèle. Pour moi, c'est un modèle important.
Est-ce que, pour vous, Yann Fabre, les héros, au fond, sont à l'intérieur de chacun de nous? Parce qu'il y a aussi cette introduction du spectacle où vous évacuez tout ce qui a pu être l'apport de la psychanalyse ou de la psychologie. Donc, on ne peut plus relire pour vous la tragédie à l'aune de la psychanalyse. Où sont les héros? Ils sont à l'intérieur des gens?
D'abord, il faut prendre mes textes au début de la pièce comme un prélude à celle d'Eschyle. Oui, on a besoin de héros maintenant, mais moi je dis « fuck you, Sigmund Freud ». Parce que mon théâtre n'est pas le théâtre de la psychanalyse. Après, un héros peut venir de n'importe où, pas besoin d'analyser ça.
Et
le vrai message à la fin, quand Pandora parle au public,
c'est
qu'on peut choisir de devenir une victime ou un héros.
Alors, question un peu bête, Yann Fabre, mais est-ce que l'artiste est aujourd'hui le nouveau Prométhée, Yann Fabre?
C'est vrai que dans ce sens, l'équipe de Prométhée, vous la voyez depuis des années dans mes travaux plastiques, mes dessins, mes sculptures. L'idée, c'est que j'ai reçu ce feu de la génération au-dessus de moi, et maintenant, je passe la flamme à la nouvelle génération.
Mais j'aimerais savoir justement, puisque vous êtes un artiste contemporain complet, vous êtes à la fois metteur en scène, vous êtes performeur, vous êtes plasticien, de quelle manière vous pouvez avoir recours à la tragédie pour nourrir votre création et votre imaginaire, Yann Fabre? Parce que la tragédie, c'est souvent des corps suppliciés, c'est souvent des corps torturés. C'est quelque chose qui va extrêmement loin dans la radicalité. Et ça ne me paraît tout à fait logique que tout à coup, vous arriviez vers la tragédie.
Je pense que tout mon travail est basé sur Pharmakon. Pharmakon, c'est un médicament grec qui peut te guérir ou t'empoisonner. C'est le virus et l'antidote. Donc beaucoup de mon travail est basé sur les vieilles tragédies grecques. Parce qu'il faut que je me confronte encore à la catharsis, sur le plateau et pour le public également.
Dans l'exposition qui a lieu actuellement à la galerie Daniel Templon, Yann Fabre, toute une série d'œuvres que vous avez réalisées. Alors, ce sont des cerveaux qui ressemblent à des choux-fleurs sur lesquels vous avez joué. Et le premier de ces objets représente donc ce cerveau choux-fleur et dessus un homme qui creuse. Et je trouve que là, on est en plein dans, par exemple, une vision qui pourrait être celle de Prométhée.
The figure.
La figure dessinée sur le premier cerveau est inspirée d'une des premières figures anatomiques en Europe. Et elle est à l'université de Montpellier. J'ai montré là-bas, il y a 10 ans, au musée d'anatomie, un film avec Bill Forsyth, Angel of Death. Et c'est là que j'ai pris beaucoup de photos des sculptures et j'ai reproduit un petit modèle sur ce cerveau. C'est une sorte d'anthropologie de la planète. L'idée, c'est de creuser dans la planète.
Qu'est-ce que raconte ce cerveau pour vous, Yann Fabre? Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau?
Pour faire une référence au film que j'ai montré, justement, je pense que le cerveau est la partie la plus sexy du corps.
C'est surprenant comme réponse.
Non, c'est très sérieux. Quand il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas d'érection.
Le cerveau, c'est l'éros, alors?
Non, mais vous savez, dans tout mon travail, depuis plus de 30 ans, le corps est un sujet et un objet de recherche. Donc c'est logique. J'ai cherché la peau, j'ai cherché les os, j'ai fait beaucoup de dessins avec mon sang, avec mon sperme, mon urine, mes larmes. Donc c'était logique, dans le cadre de cette recherche sur le corps, qu'à un moment, j'allais m'intéresser au cerveau.
Quand vous lisez les tragédies ou les tragiques, Yann Fabre, qu'est-ce que vous y cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez à l'intérieur des tragédies que vous pouvez lire, que ce soit celle d'Eschyle ou d'Euripide ou de Sophocle?
Quand je me mets à penser Je deviens comique. Et quand je suis dans le ressenti, je deviens tragique.
Mais moi, je pense que vous êtes un metteur en scène tragique. Même s'il peut y avoir du rire dans les spectacles, même si là, il y a beaucoup d'ironie dans ce que vous montrez à la galerie Daniel Templon, vous êtes fondamentalement un créateur tragique, me semble-t-il, Yann Fabre.
C'est pour ça, quand je dis, quand je pense, je suis comique, et quand je ressens, je suis tragique, je pense que c'est parce que dans mon art, il y a des principes esthétiques, mais aussi des principes éthiques. Donc le tragique et le comique, l'esthétique et l'éthique, ça va ensemble dans mon travail. Je pense que j'ai besoin des deux pour séduire les gens et puis les saisir de l'intérieur.
Je reviens, Yann Fabre, sur Prométhée, mais en même temps, on reste un peu sur le même territoire. Je le disais tout à l'heure, la tragédie, c'est les corps suppliciés. Prométhée cloué à son rocher, Œdipe a les yeux crevés, Jason va mourir par les gestes de Médée. Cet extrême-là de la tragédie, vous ne le racontez pas sur le plateau, vous ne cherchez pas à l'illustrer. Est-ce qu'on peut aller aussi loin dans le théâtre que la tragédie est allée loin ? Et est-ce qu'on peut aller aussi loin dans l'art plastique que la tragédie est allée loin, elle, dans la mise à mort des corps ?
Je pense que je l'ai déjà fait en tant qu'artiste. J'ai fait des performances dans des hôpitaux, on m'a arrêté. Il y a des œuvres qui ont été interdites dans certaines expositions, censurées. Donc je pense que j'ai déjà été assez extrême. Bien sûr, on ne peut jamais rivaliser avec l'histoire des Grecs. C'est la matrice de la pensée de notre existence en Occident. Donc, on est des petits joueurs en comparaison.
Mais est-ce que la tragédie, justement, ce n'est pas de la performance, Yann Fabre ?
Non, ce sont des histoires mythologiques qui sont ancrées au plus profond de nous. Bien sûr, il faut toujours les re-questionner, entrer en dialogue avec elles, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On oublie toujours que la mémoire, c'est le futur.
Si vous vous retournez, Yann Fabre, sur tout ce que vous avez pu faire depuis qu'on vous connaît ici en France, et puis évidemment ailleurs, que ce soit au théâtre ou dans les expositions, que ce soit l'histoire des larmes, que ce soit les solos qu'on a pu voir de vous en danse, ce que vous faisiez, tout le travail que vous avez fait sur les insectes également, qu'est-ce que vous avez l'impression de raconter ou de prélever plus exactement de l'humanité ?
Je crois que l'essence de mon travail, c'est la foi que j'ai en le genre humain. Mon travail défend la vulnérabilité de l'homme et la vulnérabilité de la beauté.
Là aussi, on retrouve chez vous cette capacité de contraction. C'est-à-dire que la beauté, me semble-t-il, Yann Fabre, chez vous, c'est l'association, c'est la confrontation du sang et du sperme, c'est-à-dire de l'éros et de thanatos, de la jouissance et de la souffrance ultime. Une fois de plus, c'est la contraction et c'est la tension qui est à l'œuvre dans la beauté. La beauté, c'est une dynamique, au fond.
On dirait que vous citez André Breton dans ce livre magnifique, Nadja. Quand il dit à la fin, la beauté sera convulsive ou ne sera pas.
L'actualité de Yann Fabre est en deux temps. Prometheus Landscape 2 est un spectacle qui tourne. Vous pouvez le voir les 13 et 14 mai à Maastricht, puis les 18 et 19 mai à Angers, les 26 et 28 mai à Gand. Le spectacle ira ensuite en Pologne, au Zagreb, à Lausanne et au Japon. Cette tournée internationale s'achèvera fin 2011. Quant à l'exposition de la galerie Daniel Templon, Yann Fabre, Chimère et Portrait d'un artiste en évasion, elle est visible jusqu'au 21 mai à Paris. Du côté de la trilogie Échille que met en scène Olivier Py et qui rassemble les Sept contre Thèbes, les Suppliantes et les Perses, le spectacle est proposé jusqu'au 21 mai à l'Odéon, salon Roger Blin. Les Perses se jouent également hors les murs jusqu'à la mi-juin environ. Le spectacle se déplace ainsi dans les jours qui viennent dans les lycées, les collèges ou les comités d'entreprise de Paris et la région parisienne. Enfin, Donatien Gros, qui nous a accompagnés tout au long de ces mercredis du théâtre, a coordonné et réuni un ensemble de textes consacrés à la tragédie. Textes publiés dans un livre intitulé « Tragédie au pluriel », édité aux éditions Rue d'Ulm. Et avant de se quitter, quelques annonces de spectacles à voir ici et là. Deux festivals pour commencer. L'un est proposé conjointement par les scènes nationales d'Annecy, de Bonlieu et le Théâtre Saint-Gervais de Genève. Du 12 au 18 mai, Extra réunit des spectacles de danse, de théâtre et ajoute à cela des manifestations d'art plastique. De Rachid Ouramdam et Emmanuel Huyn, chorégraphe, à Éléonore Weber et Patricia Alliot du côté du théâtre, en passant par Stephen Cohen, performeur, le festival avance sur un rythme soutenu. Un ensemble de propositions qui s'ancrent à la pointe d'un spectacle vivant, expérimental et radical. L'autre festival est visible au tarmac de la Villette. Il se déroulera du 17 mai au 11 juin. Le festival Outre-mer Veille propose des spectacles de danse, de marionnettes, de théâtre et des représentations à l'intention du jeune public. Il s'agit de la première édition de cette manifestation accueillant des artistes venus des Antilles, de Haïti, de Martinique, de Guadeloupe et de La Réunion. Dans un genre totalement différent, au Théâtre de la Madeleine, Alain Françon, ex-directeur du Théâtre de la Colline, grand metteur en scène et exceptionnel directeur d'acteurs, monte Fin de partie de Samuel Beckett avec une distribution éblouissante, réunissant Jean-Quentin Châtelain, Serge Merlin, Michel Robin et Isabelle Sadoyan. Les représentations ont démarré hier, elles se poursuivront jusqu'au 17 juillet. Projet atypique du côté de l'hôpital psychiatrique de Ville-Évrard avec « Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer le réchauffement climatique », c'est le titre. Spectacle écrit et mis en scène par Frédéric Ferrer qui dit à ce sujet « L'objectif de ce spectacle est d'expérimenter la possibilité de passer d'un espace à un autre sans trop se cogner ». Frédéric Ferrer poursuit depuis quelques années un travail original aux anciennes cuisines, un vieux bâtiment désaffecté de l'hôpital de Ville-Évrard, où, vous le savez sans doute, a été interné Antonin Artaud. Ce spectacle est à découvrir jusqu'au 17 mai. Plus classique, au théâtre du Vieux Colombier, Yves Bonan crée une pièce de Musset, On ne badine pas avec l'amour, avec parmi les acteurs l'immense Roland Bertin. La première a lieu ce soir et le spectacle se joue jusqu'au 26 juin. Du même Yves Bonnen, vous pouvez voir dès demain et jusqu'au 28 mai au Théâtre de l'Athénée un texte de Hermann Bruch, le récit de la servante Zerline. Et là, c'est une autre géante du théâtre qui est sur les planches, Marie-Lou Marini, actrice fabuleuse et fabuleusement attachante. Enfin, dernière mention pour signaler la reprise à Chaillot jusqu'au 21 mai de Le cas Jekyll, monologue de Christine Montalbetti, écrit à l'attention express de Denis Podalydès, qui se révèle prodigieux dans ce double rôle de Jekyll et Hyde. C'est la fin des mercredis du théâtre. On se retrouve la semaine prochaine pour parler avec des femmes qui envahissent les plateaux de théâtre, des poétesses venues de la Maison de la Poésie et des actrices. Arrivée du Théâtre de l'Ouest parisien, il y aura du monde autour des micros. Un grand merci à l'équipe et à Aurélie Charron qui a traduit l'interview d'Yann Fabre, assistante d'émission Anne de Biran, prise de son et mixage Jean-Michel Bernot, réalisation Françoise Camard. Cette émission vous était proposée par Joël Gaillot. Il est 16h sur France Culture. L'heure de laisser la place à Toufik Hakem et Jacques Munier. Bonne semaine à vous tous.